Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Sophie Durocher.
Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Vous avez peut-être suivi ça dans les médias traditionnels ou dans les médias sociaux. L'opinion de Jean-François Lisée sur la série La Maison Bleue qui est diffusée à Radio-Canada, une série qui imagine ce qui serait passé si au dernier référendum, les Québécois avaient voté oui pour l'indépendance. Jean-François aime pas beaucoup cette série-là. On va lui parler, donc ancien chef du Parti québécois, journaliste et auteur. Jean-François, bonjour.
Bonjour Sophie.
Écoute, c'est assez particulier parce que Hugo Dumas, dans la presse, a écrit un article en disant que tu avais dérogé à la ligne de parti comme si tu étais encore membre du Parti québécois, dirigeant du Parti québécois. C'est un petit peu bizarre. Il n'y a pas de ligne du parti quand on a déjà été membre d'un parti politique, rassure-moi.
Non, mais il n'y a pas de ligne de parti. C'était un sourire, je pense, de dire que
il constatait
que des souverainistes ne voulaient pas écouter la série. Puis moi, j'ai dérogé à la ligne de parti. Il n'y a pas de ligne de parti. Il y a des souverainistes qui l'écoutent. Il y a des souverainistes qui trouvent ça drôle. Ça, j'ai réalisé ça hier sur les médias sociaux parce que j'ai eu un échange assez vif avec Louis Morissette, que j'estime beaucoup par ailleurs. Mais non, donc Hugo Dumas m'a appelé, m'a demandé ce que j'en pensais. Et puis si je l'avais écouté ou si j'avais refusé de l'écouter, moi je refuse jamais d'écouter de l'humour politique. J'adore l'humour politique.
Oui.
Et donc je l'ai écouté, je lui ai donné plus. Ben non, ça, j'ai presque tout écouté malgré la médiocrité de la série. Alors c'est ça qui a déclenché l'ire du producteur et d'un des auteurs, Louis Morissette, parce que j'ai dit écoutez, on peut rire de n'importe quoi. Mm-hmm. Puis on peut être méchant en humour, mais plus on est méchant, plus il faut que ça soit drôle. Sinon, ce n'est que de la méchanceté. Et je suppose qu'on peut faire une série sur un Québec indépendant et qu'elle soit très drôle. Et qu'elle, par exemple, une des très bonnes séries politiques qui est VIP aux États-Unis, donc la vice-présidente, c'est les gens sont cyniques, les gens sont répugnants. Mais ils sont drôles, ça donne une très mauvaise image de la politique, mais c'est extrêmement drôle, puis c'est pas tous des niaiseux, ils sont intelligents, chacun à leur façon, ils se donnent la répartie, ils se font des coups bas, j'aurais accepté ça, que ce soit des fédéralistes ou des souverainistes, ou peu importe, mais la première chose que je reproche à cette série humoristique, c'est qu'elle n'est pas humoristique, pas pour moi. Écoutez, il y a 800 000 personnes qui l'écoutent. Alors, il y a du monde qui aime ça, hein? Bon, alors c'est sûr. Mais pour moi, le scénario est médiocre, paresseux. C'est paresseux. C'est le premier brouillon que tu aurais fait. C'est les dialogues sont pas drôles. Tu sais, c'est vraiment... c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et le problème, une fois que c'est pas bon, c'est que tu te dis, ça représente... la vision de qui? Puis
oui,
ça représente la vision de Jean Chrétien. Jean Chrétien aurait pu écrire le scénario. Le Québec indépendant, c'est un échec. Il est dirigé par des incapables. D'ailleurs, le vice-président est analphabète. Puis 60% des Québécois veulent revenir au Canada. Je veux dire, c'est exactement la vision de Jean Chrétien.
Oui.
Alors, ce qui reste, c'est quelque chose de pas drôle, à mon avis, mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui trouvent ça drôle, en tout cas, à mon avis, pas drôle, mais qui charrie une vision très négative de ce que serait le Québec souverain. Puis 40% des auditeurs de Radio-Canada sont indépendantistes. Alors, ils se font dire, votre rêve, c'est ça marchera pas parce qu'on est trop débiles pour avoir un pays.
Ouais, mais je vais juste évidemment je ferai pas une entrevue aujourd'hui avec Louis Morissette parce que il m'aime pas puis je veux dire jamais il m'accorderait une entrevue. Donc je veux juste quand même lui donner un droit de réplique d'une certaine façon parce que vous êtes pogné en bon québécois sur Twitter. Alors voici ce qu'il a écrit hier. Il a dit « La Maison Bleue est une satire, un monde parallèle. Je sais bien que la nature du projet amène des divergences d'opinion et des critiques, mais de qualifier notre travail de médiocre et de sous-symphorien est malhonnête et mesquin, un peu d'autodérision, s'il vous plaît, Jean-François, lisez. Alors, je pense que c'est un débat peut-être plus large que juste cette série-là, c'est de réfléchir à c'est quoi comme chaque individu évidemment va regarder cette série-là d'une façon différente. Moi, je dois te faire une confidence, j'ai fait il y a plusieurs mois une entrevue avec Guy Nadon qui joue le rôle donc du premier ministre d'un Québec indépendant et j'étais très mal à l'aise parce que j'avais demandé une entrevue avec Guy Nadon avant d'avoir vu la série, et une fois que j'ai vu la série, que je m'apprêtais à faire l'entrevue, je trouvais ça très gênant parce que je pouvais pas lui dire « je trouve pas ça drôle puis je trouve pas ça très bon ». C'est toujours très gênant de faire une entrevue avec quelqu'un dans ces circonstances-là. Et c'est pas que Guy Nadon joue mal, c'est juste qu'il a très très peu de matière intelligente à se mettre sous la dent, ce qui est un gaspillage parce que c'est un excellent comédien. Mais de façon plus générale, c'est que ça dépeint un peu les Québécois comme des tapons.
Puis bon, ça fait partie de notre culture aussi de s'auto-dénigrer dans nos communautés.
Oui, parce que les bougons, c'était ça aussi, là.
Oui, oui, mais les bougons, moi j'aimais ça, j'ai aimé les bougons, j'ai aimé la petite vie, je veux dire, oui, on rit de nous. Ben, les bougons, ils étaient très intelligents. Là, écoutez, non, mais ils c'était des fraudeurs de première.
Oui.
Bon.
Oui.
Non. Puis pour Louis Morissette, ben, il faut dire que son premier tweet, ce que tu as lu, c'est son deuxième tweet.
Ouais.
Son
oui.
premier tweet, c'était « Je respecte votre opinion », il me parlait à moi, « Vous connaissez en médiocrité ».
Oui.
Alors,
ben, je voulais pas le... Ouais.
On sentait que c'était... Ça venait de son fond. Là. Il avait été très meurtri par mon utilisation du mot « médiocrité ». Sur son fil Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était très très exagéré de sa part de dire ça, mais je comprends que dans quand tu as travaillé sur un projet, tu te fais dire ça, ton premier mouvement, c'est la colère. Mais écoutez, je veux dire, comme je lui ai dit par Twitter, il n'est pas médiocre, lui. Le film Le Mirage, la série Plan B, c'est de grande qualité, puis je lui avais dit personnellement, Mirage, c'est un des meilleurs films, je trouve que c'était une vision des choses, la sensibilité,
j'avais adoré moi
là-dedans.
Aussi. Ouais.
Bon, alors donc, j'ai dit, c'est justement parce que je ne vous sais pas médiocre que c'est si décevant, ce film-là. Oui, on a tendance à se montrer comme des idiots, mais lorsque... Puis là, c'est Radio-Canada qui aurait pu se poser la question. Là, on va faire une série qui montre une option politique comme étant dirigée par des idéots. OK?
Oui. Ben alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est que c'est pas n'importe quel diffuseur. C'est sûr que le fait que ce soit Radio-Canada, qui est une entreprise fédérale payée avec l'argent de tous les Canadiens, Admaré, Ouskoué, Admaré, c'est là que le bas blesse. Parce que c'est sûr que les dirigeants de Radio-Canada peuvent pas dire c'est une série comme une autre. Je veux dire, c'est un scénario où on imagine à quoi ressemblerait un Québec indépendant. Et la réponse, c'est une gang de tapons qui sont pas capables de trouver leur propre derrière dans un sac de papier brun.
Exact, exact. Alors, on sent que non seulement il n'y a pas eu d'hésitation, mais la série a été renouvelée pour
une deuxième saison.
Hein? Ouais. Bon, alors c'est parce que il y a du monde qui l'écoute. Hein? On doit s'incliner devant la cote d'écoute. Elle existe. Bon, mais je me souviens de tu sais Louis de Funès quand il faisait sa série Le Gendarme, dont les derniers épisodes étaient épouvantablement mauvais. Dont Le Gendarme et les extraterrestres, je veux dire, ça a pris une demi-heure à écrire dans un bar. Mais tout le monde est allé parce que c'est Louis Funès. Et Le Monde avait écrit une critique d'un paragraphe en disant contentons-nous de constater qu'il y a un public pour ce genre de film. C'était ça la critique. C'est rien d'autre.
Mais il faut dire aussi que tu t'en es pris à quelqu'un qui a quand même un ego assez... je veux dire, Louis Morissette a très bon jeu de te dire que tu devrais faire preuve d'autodérision. Lui est incapable de la moindre autocritique. C'est quelqu'un qui a une peau hyper sensible, qui règne quand même en grand maître à Radio-Canada. Écoute, KO TV... produit, écoute, la quasi-totalité des émissions de Véro.tv, dont on ne connaît d'ailleurs aucun chiffre, soit sur le budget qui est alloué, soit sur les codes d'écoute de Véro.tv. Il emmène très large. Il y a beaucoup, beaucoup de séries produites par KO TV, documentaires, séries et tout ça, qui sont diffusées à Radio-Canada. Donc, c'est un petit peu comme si tu étais... tu t'en étais pris un intouchable, là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est un petit peu soupaulet quand même, Louis Morissette.
Oui, mais moi, je les collectionne, les intouchables. Hein. On se souvient que je m'en étais pris à Pierre-Carl Péladeau. Oui. J'ai déjà contredit publiquement Jacques Parizeau. Évidemment, Robert Bourassa, on s'en souvient. Donc, moi, je défends la liberté d'expression, y compris la mienne. Alors, non, et puis ça m'empêche pas d'avoir de l'estime pour lui, ça m'empêche pas de savoir que c'est quelqu'un d'important dans notre écosystème culturel, et sa contribution, on peut la débattre, mais elle est importante, elle est là, importante, elle a de la valeur.
Moi, j'ai pris sa défense à plusieurs reprises, justement, quand il avait fait le film Le Mirage, et que le seul prix qui avait été gagné, c'était pour Christine Beaulieu, qui était extraordinaire dans ce film-là, mais je ne comprenais pas que ça n'ait pas gagné meilleur film, meilleur scénario, je veux dire, il y avait plein de bonnes choses, et j'ai totalement pris la défense de ce film-là. Je nie pas son talent, au contraire, ni son talent à accepter la critique ou les commentaires négatifs. C'est juste ça.
Ben, ça s'apprend. Hein?
Ouais.
Alors moi, j'ai toujours dit que tous les journalistes devraient, là je prends du point de vue du politicien, tous les journalistes devraient avoir un article sur eux pour se rendre compte de ce que c'est que de perdre le contrôle de son image publique. Mm-hmm. Parce que au début, ben, toi tu en as eu un certain nombre, mais la plupart des journalistes n'ont jamais eu d'articles qui les critiquent. Et la première fois que ça t'arrive dans ta vie, ça oblige à développer un muscle que tu ne pensais pas que tu avais. Ça dépend aussi du niveau de la critique, mais c'est parfois un peu traumatisant, tu sais, de dire ben là, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai pas pu contrôler ce qui s'est dit, il y a des choses qui sont pas vraies, puis ça devient extérieur à moi, tu sais, c'est très particulier. Alors, on s'habitue petit à petit à lire des choses, puis là, quand on est en politique, ben, c'est tous les jours, c'est comme si on avait une pièce de théâtre quotidienne avec ses critiques le lendemain dans le journal, tous les jours, c'est assez particulier.
Oui, c'est assez particulier, en effet. Mais je veux juste revenir sur, donc, l'essence même qui est ce scénario d'un Québec indépendant où la majorité des gens sont des crétins, puis les ministres sont des ploucs. Si cette série-là, imagine, avait été faite au Canada anglais, si ça avait été CBC et non pas Radio-Canada qui l'avait produite, imagine... Au Québec, les gens auraient crié au Québec bashing, auraient dit « Voyons, c'est effrayant, comment se fait-il que la CBC se moque de nous comme ça et nous dépeigne comme des ploucs? » Ben là, on n'a même pas besoin que ce soit des Anglos qui nous tapent dessus, on est capable de se taper dessous nous-mêmes, on est capable de s'autopelure, de bananiser, comme disait ton ami Jacques Parizeau. Alors, c'est ça, c'est là que le bas blesse, c'est que c'est même pas... on n'a même pas besoin du magazine McLean's pour nous dire qu'on est les rois de la corruption, on se le dit à nous-mêmes.
Oui. Mais encore là, moi, ma nuance, c'est si c'était drôle...
C'était drôle,
si
voilà.
C'était fin... Si c'était, tu sais, si on en tirait un réel plaisir, bon, je dirais, bon, ben, écoute, tu sais, bon, c'est drôle. Mais comme, et je me demande, bon, est-ce que c'est notre biais? Est-ce que c'est parce qu'on est des souverainistes qu'on la trouve moins drôle? moi, je suis quand même assez bon public. Tu sais, je l'ai écouté, Louis de Funès et les extraterrestres. Je suis assez bon public, mais peut-être que ma carapace n'est pas assez forte pour trouver ça drôle. Mais je me demande aussi, est-ce qu'on va avoir la Maison Rouge où là, ça va être une gang de fédéralistes qui sont en train de, je sais pas moi, faire un programme de commandite pour vendre des drapeaux du Canada. Puis qui se font avoir par leurs propres amis dans des compagnies de relations publiques qui volent de l'argent, puis qui la mettent dans des enveloppes. Je veux dire, il y a peut-être du matériel dans le paysage pour faire une série drôle sur la corruption libérale et fédérale, tu sais.
Mais ça, c'est excellent ce que tu poses comme question, parce que si, mettons, toi, Jean-François Lisée, t'écrivais cette série-là, quelle serait la réaction des dirigeants de Radio-Canada qui sont chummy-chummy avec Justin Trudeau, qui leur a donné un financement de 450 millions sur 5 ans, en plus du 1,2 milliard que le Radio-Canada reçoit déjà? C'est une excellente question.
Je ne voudrais pas que ça vienne de moi. Je suis un ancien chef du PQ, mais...
Non, mais mettons...
Si Louis veut m'appeler, hein? Si Louis veut m'appeler, je peux, avec un nom d'emprunt, l'aider à écrire cette série-là, puis on verra si elle sera
acceptée. La Maison Rouge. C'est très bon. Et on pourrait, écoute, imagine, dans cette série-là, on aurait un premier ministre dont la femme, la mère et le frère ont donné des conférences à fort prix pour un organisme qui pourrait s'appeler Oui Oui Charity, et que cet organisme-là recevrait des millions de dollars de financement du gouvernement pour gérer un programme pour donner de l'argent aux jeunes Canadiens. Et les gens diraient, voyons, arrête, pousse pas, vous avez, qu'est-ce qu'il a fumé, ce scénariste-là? C'est pas crédible, voyons, c'est exagéré.
Crédibilité. Voyons donc, faut que ça soit vraisemblable un petit peu, Sophie, là, tu sais, essaye de rester proche du réel.
Ben oui, un premier ministre, mettons, qui serait allé aux frais de son ami multimillionnaire sur l'île privée de son ami millionnaire. Je dirais, tu pourrais écrire ça, puis les gens diraient, ben voyons, c'est pas crédible, Jean-François.
Et qui va dans un autre pays, puis qui se déguise tous les jours avec...
Puis sa femme, puis ses enfants se déguisent, puis se mettent même un petit bindi rouge, là, sur le front. Puis les gens diraient, ben voyons, vous exagérez, c'était possible. Personne est assez plouc pour se placer à trois reprises dans des cas flagrants de conflit d'intérêts. Ben voyons, ça n'existe pas. Écoute, je pense qu'on va l'écrire ensemble, la série Maison Rouge, Jean-François.
On a beaucoup d'idées, ouais.
Bon, est-ce qu'il y a une réconciliation en vue avec Louis Morissette?
Ah ben, on n'est pas des amis, là. On s'est croisés trois fois dans des événements publics, alors c'est pas indispensable. Mais moi, je vais continuer à écouter ces productions avec toujours l'esprit ouvert. Puis j'ai la certitude que la médiocrité de la Maison Bleue est une exception dans son œuvre. Voilà.
Jean-François, est-ce qu'il y avait un autre sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui?
J'ai aimé parler d'Erin O'Toole qui a vu la lumière sur la question du rapport d'impôt unique.
Oui. Alors, rapidement, il te reste une minute.
C'est extraordinaire parce que les conservateurs ont fait leur campagne au Québec en 2018 en promettant le rapport d'impôt unique. Andrew Scheer a été remplacé par Erin O'Toole, qui a fait sa campagne au leadership au Québec en proposant le rapport d'impôt unique. Et là, pour une rare fois, un parti d'opposition rompt sa promesse électorale.
C'est fou.
Ça, c'est très innovateur. Un parti d'opposition a fait une promesse électorale et dans l'opposition, la rompt en faisant en sorte de s'abstenir dans un vote dans un comité des communes qui fait en sorte que la majorité qui est contre, c'est les libéraux, réussissent à battre la proposition. Alors,
c'est assez particulier. Alors, on pourrait peut-être inclure ça dans Maison Rouge. On va peut-être écrire là-dessus. Et quand on va écrire Maison Rouge, écoute, faut qu'on se laisse parce que vraiment, j'ai tellement débordé. J'ai débordé 3 minutes, là. Alors là, on va pénaliser les prochains invités. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne fin de semaine. Puis si jamais tu te réconcilies avec Louis Morissette, je veux un selfie. Merci beaucoup, Jean-François.
Salut.
Ancien chef du Parti québécois et auteur récemment du livre Guerre froide PQ sur les espions étrangers au Québec.